Ria Dakar, 22h à N'Djamena. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrirons l'émission par la Guinée, où une nouvelle loi de lutte contre le terrorisme vient d'être promulguée. Nous serons au Tchad pour notre dossier.
Nous avons demandé les garanties d'emploi. Et je m'ai dit, dans un président, qu'il garantit l'emploi. À notre dernière rencontre, il dit que ce n'est pas évident pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. Nous ne demandons rien à l'État tchadien. C'est sur le prix de vente de la Sauterelle que nous voulons qu'ils débloquent quelque chose pour nous
le
donner.
Le Tchad, où la privatisation annoncée de la Société des télécommunications du Tchad inquiète les employés qui réclament des compensations. Reportage de François Djekombé à suivre. Enfin, rubrique African Voice, nous entendrons l'avocat Adeola Austin Oyinlade qui évoquera les droits civiques et politiques au Nigeria. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous. Le Nigeria a démenti un article du journal Leadership affirmant que 15 officiers, y compris 10 généraux, ont été passés en cour martiale pour avoir collaboré avec Boko Haram. Un porte-parole de l'armée nigériane et un responsable de communication du gouvernement ont dit à la VOA que l'information est fausse. En Libye, le premier ministre est à peine installé que le siège du gouvernement est frappé par une roquette sans toutefois faire de victimes. Issa Napon.
L'attaque a visé hier le troisième étage de la primature près du centre de Tripoli. Absent de ses bureaux au moment de la déflagration, le Premier ministre Ahmed Maïtik s'y est rendu aujourd'hui pour tenir le Conseil des ministres. Le cabinet sortant, conduit par Abdallah Al-Thani, conteste l'élection de M. Maïtik et dit avoir saisi la justice pour trancher. Le Premier ministre sortant a dit avoir instruit sa sécurité pour laisser entrer M. Maïtik et son équipe à la primature. Dans l'est du pays, le général dissident Khalifa Haftar a échappé ce matin à un attentat suicide. Un kamikaze a lancé sa voiture piégée contre l'un de ses quartiers généraux près de Benghazi. Trois gardes qui tentaient d'arrêter l'assaillant ont été tués. Le groupe Ansar al-Sharia avait lancé une mise en garde au général Haftar pour qu'il arrête son offensive contre les islamistes.
Et les États-Unis ont appelé le président élu égyptien à mener des réformes pour assurer que le gouvernement soit responsable et transparent tout en protégeant les droits universels de tous les Égyptiens. Le président Barack Obama prévoit de parler avec Abdel Fattah el-Sissi dans les prochains jours, précise un communiqué de la Maison-Blanche. Washington se dit profondément préoccupé par l'arrestation et la disparition de dizaines de citoyens rwandais au cours des deux derniers mois. Les autorités rwandaises ont tenu des individus au secret pendant des périodes allant jusqu'à deux mois avant de les présenter au tribunal, a fait savoir Marie Huff, porte-parole du département d'État, dans une déclaration écrite.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Les talibans afghans ont publié une vidéo montrant le transfert du sergent Bo Begdal, libéré samedi dans le cadre d'un échange de prisonniers. Lionel Gaïma.
Dans cette vidéo de 17 minutes, on peut voir Begdal, la tête bien rasée et vêtue d'un habit traditionnel afghan de couleur blanche. Il est assis dans une camionnette stationnée sur une colline. Il se frotte les yeux en plein soleil. Plusieurs hommes armés sont vus à proximité. Plus tard, il a été remis à des hommes qui arrivent dans un hélicoptère de type militaire. Un des hommes le conduit à l'hélicoptère portant un drapeau blanc. Deux fois dans la vidéo, on peut lire sur l'écran « Ne revenez pas en Afghanistan ». Les talibans ont libéré Begdal samedi en échange de 5 de leurs qui étaient détenus à la prison militaire américaine de Guantanamo Bay à Cuba.
Merci Lionel. La Russie n'a aucun plan d'annexion ou de déstabilisation du sud-est de l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le président Vladimir Poutine. Ce démenti intervient alors que les dirigeants européens lui demandent de faire pression pour que les séparatistes mettent fin à leur rébellion contre Kiev. M. Poutine a également démenti la présence en Ukraine de soldats ou d'instructeurs militaires russes. Ce mercredi, la chancelière allemande Angela Merkel a averti Moscou que Moscou ferait face à de nouvelles sanctions s'il n'arrête pas de transfert d'armes et de combattants vers l'est de l'Ukraine. Et puis le gouvernement américain offre 290 millions de dollars d'assistance humanitaire pour renforcer les efforts des Nations Unies en Syrie et dans les pays voisins qui ont accueilli des réfugiés venant de la Syrie. L'annonce a été faite aujourd'hui par le secrétaire d'État américain John Kerry. Toutes les nations, a ajouté le premier responsable de la diplomatie américaine, ont la responsabilité d'œuvrer pour la fin du conflit syrien. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, la suite de Sahel Plus.
Retour à la partie magazine de Sahel+, et nous ouvrons l'émission par la Guinée, qui veut combattre le financement du terrorisme. Une nouvelle loi vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Tout fonds de plus de 50 millions de francs guinéens, soit 5 000 euros, devra faire l'objet d'une vérification. Les explications de notre correspondant Zakaria Camara.
C'est une loi adoptée mardi par les parlementaires guinéens contre tout argent devant servir à financer le terrorisme. Pour démanteler des cas suspects, les députés ont aussi mis en place une cellule de traitement des informations financières. Elle aura pour mission de veiller sur la circulation fiduciaire à condition que le montant dépasse 5 000 euros. Précision, cette cellule n'aura pas de pouvoir de police. Elle ne peut donc procéder à l'arrestation des présumés bailleurs du terrorisme, mais elle aura une grande marge de manœuvre de vérifier la provenance de fonds détenus par un tiers. Une loi contre le financement du terrorisme en Guinée, un sujet qui intéresse quelques Guinéens.
Très bonne idée parce que nous savons que ces terroristes sont le plus souvent financés par quelquefois des sociétés écrans. On ignore d'où proviennent en tout cas leurs fonds, on ignore d'où vient leur argent.
On sait que les organisations terroristes sont très bien organisées et elles fonctionnent sur un budget beaucoup plus important. Mais si on pouvait, à mon sens, relever plus cette somme, c'est-à-dire 50 millions, c'est très bien.
Ce qui concerne la vérification des comptes pour les personnes qui peuvent avoir 50 millions, et que cela soit suspect dans le cadre du financement du terrorisme, je trouve cela aussi bien. Mais il ne faudrait pas que ça soit un moyen de pression sur certaines personnes, un règlement de compte contre certaines personnes.
L'adoption de cette loi permet à la Guinée de se conformer aux recommandations du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Mais au moment où la sous-région est sous la menace des groupes terroristes, notamment Boko Haram au Nigeria et les djihadistes au Mali. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel+ sur La Voix de l'Amérique et sur le 99.4 FM, notre fréquence à Mamou, en Guinée, sur la radio Bolivar. Direction le Tchad pour notre dossier. La privatisation annoncée de la Société des télécommunications du Tchad, la SOTEL, et le licenciement collectif du personnel de cette société pour motifs économiques inquiètent les employés qui réclament des compensations financières. Le gouvernement estime, lui, que la situation des employés sera examinée au cas par cas. Reportage de notre correspondant à N'Djamena, François Djekombe.
La Société des télécommunications du Tchad est en difficulté. Sans s'opposer à sa privatisation qui demeure la seule issue honorable, les quelques 500 employés exigent que soient payés intégralement leurs droits sociaux. Éloi Ndimadjingar, un des représentants du syndicat national des agents du secteur des TIC, Synastic.
Nos intérêts sont en train d'être menacés. Par deux fois, nous sommes allés le rencontrer. La dernière rencontre date du 26 nous a fait savoir que pour avoir rendu service à la SOTEL, ils nous payent nos droits. Mais le fait qu'on puisse garder cette maison pendant des années et qu'on doit repartir comme si c'était des vulgaires messieurs, c'est là où ça nous touche. Et nous avons des armes à nourrir derrière nous. 556 employés à la SOTEL. Nous avons demandé les garanties d'emploi. Et je m'ai dit dans un président qu'il garantit l'emploi. À notre dernière rencontre, il dit que ce n'est pas évident pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. Nous ne demandons rien à l'État tchadien. C'est sur le prix de vente de la SOTEL là, que nous voulons qu'ils débloquent quelque chose pour nous le donner.
La privatisation de la SOTEL Tchad a également préoccupé la représentation nationale qui a interpellé le ministre des Postes et des Technologies de l'Information, Daoussa Déby Itno. Pour lui, la SOTEL Tchad est une entreprise fortement endettée. En 2009, l'État, pour la tenir debout, y a injecté une somme de 53 milliards de francs CFA et aujourd'hui, elle fait des pertes mensuelles de 400 millions de francs CFA. La privatisation reste donc la seule alternative pour permettre aux employés licenciés d'entrer dans leurs droits. Daoussa Déby Itno.
Profitons de l'occasion pour la privatisation et sur les retombées de la privatisation, en priorité, prendre en charge le sort du personnel. Il faut répartir le personnel en trois base. Les fonctionnaires qui sont appelés à regagner leur maison de départ. Tous les droits pour les services rendus seront payés. Le deuxième cas, le repreneur, en cas où c'est privatisé, il va travailler avec les gens. De ce côté, donc, une bonne partie de ces personnels va être résorbée par le repreneur. Il y a un effectif résiduel qui va rester, qui n'est pas parti à la fonction publique parce qu'il n'est pas fonctionnaire, qui n'est pas été repris par le privé parce qu'il y a des raisons propres. Là, maintenant, il faut mettre un plan social. Ça veut dire ne pas les gens les laisser dans la rue. On les accompagne. On va vouloir trouver du travail, une reconversion d'activité. On va négocier avec eux pour leur trouver quelque chose qui leur permette de reprendre une nouvelle vie.
N'Djamena, François Ndjekombe, La Voix de l'Amérique.
N'Djamena, où vous nous écoutez sur le 93.1 FM.
Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça.
Nous nous rendons au Nigeria pour notre rubrique interactive. Notre correspondant Ali Cabré a rencontré l'avocat et militant des droits civiques et des libertés publiques, Maître Adeola Austin Oyinlade. Il revient sur les droits de l'homme au Nigeria. Maître Adeola Austin Oyinlade.
Je crois que nous avons commencé il y a de cela 7 ans et nous avons dénoncé beaucoup de violations de droits dans le pays et les Nigériens savent maintenant qu'ils ont des droits. À un moment, nous avons dû parcourir les rues de Lagos pour distribuer gratuitement 10 000 exemplaires de la Constitution nigériane. Nous ne nous sommes pas contentés de leur offrir la Constitution, nous les avons aussi outillés sur les droits qui sont les leurs. La plupart des gens qui ont reçu cette Constitution la voyaient pour la première fois. Certains ne savaient même pas qu'ils ont droit au respect de leur vie privée. D'autres ne savaient pas ce qu'était la liberté d'association. Beaucoup ont compris qu'ils jouissent de la liberté d'expression et ont compris les limites à ces libertés. Aujourd'hui donc, les Nigériens savent qu'ils ont tous ces droits. Ils savent désormais qu'ils peuvent même poursuivre leur État en justice pour des violations de leurs droits. Si un policier vous détient, par exemple, au-delà du délai prévu par la Constitution, vous pouvez attaquer la police en justice. Nous avons déjà cela et nous devons continuer à le renforcer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violation des droits ici et là, mais à partir du moment où la sensibilisation est faite, alors nous pouvons parler de protection des droits. Dans les 63 ans d'existence de la République fédérale du Nigeria, nous avons connu plus de 35 ans de régime militaire. La démocratie que nous connaissons maintenant a débuté en 1999 et entre 1999 et 2014, cela fait près de 14 ans de démocratie. Nous sommes dans le processus. Nous n'avons pas encore réellement concrétisé le concept, car pour moi, avec l'évolution que nous voyons au sein du pouvoir judiciaire, les gens vont en justice pour réclamer leurs droits, souvent contre l'État lui-même. Nous voyons des situations de pétition populaire pour des lois auprès de l'Assemblée nationale qui les examine. Je crois que c'est des points d'étape importants vers l'État de droit, mais nous n'y sommes pas encore totalement.
Nous sommes getting there gradually, but we've not arrived there yet.
Nous retrouverons demain la suite de cet entretien avec Maître Adeola Austin Oyinlade. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation et à la console, Joselle Morissin. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Achille Baldal et son morceau N'Djamena.
C'est la poussière, l'électricité est un luxe, l'eau potable est un luxe, le téléphone est un luxe, même le transport est un luxe. Oh yeah!
Rendez-vous demain 21h temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
N'Djamena, c'est un seul, ça y est, plan d'urbanisation. Les constructions n'existent pas. Ma capitale ne fait que vieillir. Quand il pleut, c'est l'inondation. Quand il souffle, c'est la poussière. L'électricité est un luxe. L'eau potable est un luxe. Le téléphone est un luxe. Même l'internet est un luxe.
La Voix de l'Amérique vous propose maintenant Un dossier spécial sur la République centrafricaine.
Timothée Donangmaï pour cette page spéciale RCA de La Voix de l'Amérique. Le Premier ministre de la Transition, André Nzapayeke, réitère son appel au désarmement volontaire du 8 juin. Le point avec Nicolas Pineau.
En prélude au désarmement volontaire du 8 juin à Bangui et ses environs, le chef du gouvernement centrafricain a rencontré ce mercredi les autorités locales. André Nzapayeke a invité les chefs de quartier et groupes à organiser le désarmement en appelant les Centrafricains à l'esprit du pardon et à la cohésion sociale. Le Premier ministre a expliqué que le désarmement volontaire est une expression de la volonté de retrouver la paix sur l'ensemble du pays. Par ailleurs, le président de la Conférence des imams de France, l'imam Hassan Chalgoumi, est en mission de 4 jours à Bangui. Il a appelé les forces internationales à prendre leurs responsabilités.
Je ne crois pas que la religion elle-même, elle pousse à cette haine, parce que quelqu'un qui croit au message de Jésus ou de prophète Mohammed, il ne peut pas être de cette manière. Quelqu'un qui l'a à la foi dans son cœur, il ne peut pas soumettre sa main avec de sang. Mais en même temps, je donne la responsabilité aux Européens, aux Africains, qui prennent leur responsabilité.
Et c'est ce mercredi qu'a pris fin le deuil de 3 jours décrété à la mémoire des victimes de l'attaque de l'église de Notre-Dame de Fatima.
En Centrafrique, l'utilisation des textos est suspendue jusqu'à nouvel ordre en vue de contribuer à la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Le ministère des Télécommunications a adressé une lettre aux compagnies de téléphone avec effet immédiat. Il est aussi question d'un désarmement volontaire dimanche à Bangui. Félix Yepassi Zembrou a joint le Premier ministre André Nzapayeke.
Cette mesure, faut pas voir ça comme une mauvaise mesure. Nous sommes dans une situation de crise grave. Il y a eu une grave atteinte à la sécurité de l'État. Donc, nécessairement, le gouvernement doit prendre un certain nombre de mesures pour sécuriser les institutions de l'État, pour sécuriser les populations. Donc, on ne pouvait pas se permettre, les SMS étant un des moyens les plus utilisés par les comploteurs, les manipulateurs qui manipulent notre jeunesse, qui les regroupent à travers les SMS pour leur donner de la drogue et distribuer des ressources, les traitant comme s'il s'agissait de moutons à qui on peut donner un peu d'argent et de drogue et les envoyer pour qu'ils détruisent toute leur nation. Donc nous avons jugé nécessaire de contrôler la situation sécuritaire et je crois que la limitation des SMS était un des moyens que nous avons jugé les plus efficaces. Ça ne durera que quelques jours. D'ici 2 jours, je pense que cette mesure va être levée.
Oui, mais cette mesure, Monsieur le Premier ministre, est-elle efficiente dans la mesure où les abonnés à la téléphonie mobile peuvent encore utiliser d'autres moyens que le SMS, par exemple le téléphone?
Bien sûr, nous savons qu'ils peuvent utiliser d'autres moyens, mais vous savez quand même que c'est beaucoup plus difficile de téléphoner à tour de rôle à 1000 personnes que d'envoyer en une seule fois un seul message à 1000 personnes.
Cela n'affecte peut-être pas quelque peu la liberté de communication en Centrafrique?
Nous sommes dans une situation où le pays est pris en otage. Est-ce que le Centrafricain moyen a encore une liberté? Nous, aujourd'hui, nous sommes tous pris en otage par les anti-Balaka et les ex-Seleka et les autres manipulateurs et criminels qui sèment le territoire centrafricain. Alors, c'est une question de choix. Ou bien nous voulons lutter contre la criminalité de manière efficace et garantir durablement la liberté des individus, ou bien nous laissons les individus à la merci de tous ces criminels. Eh bien, nous avons choisi la protection des individus.
Le Premier ministre de la République centrafricaine, André Nzapayeke, joint à Bangui. Voilà, c'est tout pour cette fenêtre sur la Centrafrique ce soir. Chez Robin Dorcil au micro.
Et maintenant, un message international du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ont étendu leur offre de prime pour toute information sur les leaders d'organisations terroristes, y compris le chef de l'un des groupes menant des attaques contre les complexes gouvernementaux et d'autres cibles dans le nord du Nigeria, plongeant ce pays dans une violence sectaire. Aboubakar Shekau dirige le groupe communément appelé Boko Haram, une organisation extrémiste basée au Nigeria et qui cherche à renverser le gouvernement actuel et à le remplacer par un régime basé sur une interprétation stricte de la loi islamique. Les liens avec des groupes terroristes comme Al-Qaïda et Al-Shabaab ont renforcé les capacités de Boko Haram à mener des attaques. Précédemment numéro 2 du groupe, Shekau en a pris le commandement général en juillet 2010, exprimant sa solidarité avec Al-Qaïda et menaçant les États-Unis. Un attentat à la voiture piégé contre les bureaux des Nations Unies à Abuja en août 2011 a marqué la première action létale du groupe contre des intérêts occidentaux. Il avait fait au moins 23 morts et 80 blessés. En avril 2012, le groupe a fait exploser des bombes au siège d'un journal nigérian à Abuja et par la suite, proféré des menaces contre des médias locaux et internationaux, y compris la Voix de l'Amérique.